9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Bonjour Damien Couvreur.
Bonjour Philippe.
Vous êtes directeur des séries, directeur de la création pour Netflix France. Autrefois, en 2016, quand Netflix avait lancé la série Marseille avec Gérard Depardieu, vous étiez deux salariés chargés des séries européennes à Netflix. Et encore, vous étiez dans les bureaux à Los Angeles, c'est bien ça ?
Exactement, oui. J'ai eu la chance de commencer là-bas et d'être aujourd'hui dans un bureau. On est une soixantaine de salariés à Paris.
Ça va être ma question. Plus de 7 millions d'abonnés en France, même si le chiffre reste secret, et une soixantaine de salariés. L'actualité de Netflix, c'est la partie 2 de Lupin, série phénomène avec Omar Sy qui démarre demain vendredi. Puis toute une rafale de nouveautés qui arrivent, on va en parler. Lupin, c'est l'un des grands succès de Netflix en France et dans le monde. C'est la série la plus regardée sur la plateforme cette année. Vraiment, le chiffre, c'est combien ?
76 millions de foyers qui ont regardé la première partie de Lupin depuis le mois de janvier.
Et donc Lupin, c'est pas fini puisque la seconde partie de la première saison, si j'ai bien compris, arrive demain. Bande annonce.
Ça va trop loin cette histoire. Il risque de kidnapper mon fils. Il va payer pour ça.
Vous le connaissez ?
Bah évidemment, Hassan Diop.
D'après la police, il s'agirait Hassan Diop, l'homme le plus recherché de France.
Maintenant, on disparaît.
J'aimerais beaucoup vous aider, mais j'ai peur que vous perdiez votre temps. Ça ne viendra pas.
On m'a piégé et je suis pas coupable.
La fondation a été volée, mais nous refusons d'être intimidés.
Vous pensez que Diop pourrait venir ?
Diop a le sens du spectacle. Et il viendra jusqu'à nous.
On est prêt ? Place à la magie.
Wow, c'est du Netflix, Lupin en chiffres, très impressionnant. 76 millions de foyers dans le monde ont regardé Lupin. Toute la série, 5 minutes, 10 minutes, comment vous les comptabilisez ?
Alors en fait, la façon dont on comptabilise, c'est les gens qui regardent 2 minutes de la série. Donc c'est-à-dire qu'ils se lancent dans la série. Après, c'est vrai que je pense que vous voyez dans les conversations qui ont suivi le lancement de la série qu'il y a beaucoup de gens qui effectivement vont jusqu'au bout et qui attendent demain matin avec impatience pour découvrir la suite de cette première saison.
Ah oui, mais c'est pas comme l'audience télé. Parce que l'audience télé, quand un film fait 4 millions, c'est 4 millions de personnes sont à peu près allées jusqu'au bout. Si quelqu'un reste que 2 minutes, il ne compte pas dans ces 4 millions.
Non, exactement. Voilà, nous on a vraiment une mesure qui est sur qui est une mesure qui est utilisée dans de nombreux pays et qui est un indicateur relativement fiable.
Première série française qui entre dans le top 10 américain, vous le confirmez ?
Je le confirme avec le sourire qu'on ne voit pas derrière le masque.
Alors évidemment, ça c'est pour la télévision, pour les écrans, mais ça déborde du cadre des écrans. 140 000 exemplaires des livres de Maurice Leblanc, le créateur d'Arsène Lupin, ont été vendus en France depuis la sortie de la série. Ça s'est documenté. La nouvelle édition officielle de Lupin, Gentleman Cambrioleur, est restée en tête des ventes jeunesse pendant 10 semaines. Au passage, c'est vraiment une série tout public. C'est du polar, mais tout n'est pas vraiment réaliste comme du vrai polar.
Non, mais je crois exactement. Et puis vous savez, c'est la série d'un personnage. C'est-à-dire, c'est l'histoire d'Hassan Diop qui s'inspire d'Arsène Lupin. Je pense que dans les clés du succès de la série, il y a à la fois ce personnage qui est un personnage attachant auquel on peut s'identifier, puis qui a le charme et qui nous emmène dans une grande aventure. Et puis il y a aussi, parce que nous on fait des séries françaises ancrées en France, un ancrage culturel fort qui est ce livre. Et finalement, ce que traduisent les chiffres de vente du livre, c'est que le livre est aussi la star de la série.
Chiffre qui m'a laissé perplexe, qui m'a donné à réfléchir, 15,8 millions d'euros d'impact économique direct et indirect en France. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ?
Je crois que ça veut dire qu'on est extrêmement implanté en France. Aujourd'hui, on a des productions, on lance pas loin de 30 contenus, séries, films, documentaires confondus cette année en France. Voilà, donc on est aujourd'hui dans un moment où Netflix en France est impliqué, intégré à l'économie culturelle et peut créer ces opportunités économiques.
Et puisque vous parlez de culture, je sais que vous êtes sensible à ce sujet. J'ai vu un soir aux 20h les habitants de la ville d'Étretat, ils se sentent envahis par les touristes. C'est-à-dire que, et qu'ils ne sont pas toujours très propres, vous êtes sensible à ce genre d'argument.
Ah, j'y suis surtout quand on retourne au Louvre après le tournage et quand on voit le sourire des équipes du Louvre parce qu'on a mis ce musée en lumière pour le monde entier. Je crois que, comme beaucoup de Français, ils sont impatients d'accueillir à nouveau les touristes, notamment suite au succès de Lupin.
Voilà, ce que ça se passe en grande partie à Étretat, notamment avec l'Aiguille Creuse. Alors, donc la série incarné par Omar Sy, n'est pas Arsène Lupin mais Hassan Diop, un fan des romans d'Arsène Lupin, un personnage joyeux, volubile, fantasque, voleur mais qui ne tue pas, qui ne vole que les méchants. Très important pour vous aussi dans la série, et ça se voit et ça saute aux yeux évidemment, c'est la diversité.
Exactement, je crois qu'il y avait vraiment l'idée de se dire qui serait Arsène Lupin aujourd'hui. Voilà. Et ce qui est incroyable avec ce personnage d'Hassan Diop, c'est que son pouvoir, c'est son invisibilité. C'est quelqu'un qu'au départ on ne voit pas et qui va savoir retourner cette invisibilité comme son super pouvoir pour pouvoir effectivement voler les riches. Et puis au-delà de voler les riches, parce que c'est le principe de Arsène Gentleman Cambrioleur, vraiment rétablir l'histoire de sa famille. C'est l'histoire d'un père dont le père a été floué et qui veut transmettre à son fils aussi un héritage familial. Et je crois que c'est des éléments très importants aussi au cœur du récit.
Il y a toute une dimension de paternité. On parlait de diversité. Il y a toutes les couleurs de peau dans Lupin, des hommes, des femmes, il y a des jeunes, des vieux. J'ai remarqué que les deux méchants, Dumont, le chef de la brigade qui enquête sur Hassan Diop, ou alors Pellegrini, le milliardaire, sont les deux seuls hommes blancs de plus de 50 ans. Il y a de la diversité, mais on est quand même dans le politiquement correct. Aucun méchant n'est issu d'une minorité. Pourquoi ce parti pris ?
Alors Philippe, je vous invite demain matin à 9h à regarder la partie 2. Je ne vais pas spoiler, mais vous verrez.
Alors j'ai vu deux épisodes de la partie 2 et les méchants sont des hommes blancs de plus de 50 ans. Alors, ça m'a frappé.
C'est
politiquement correct.
J'aimerais bien.
Dites-moi juste.
Non, mais pas du tout. Il n'y a aucune intention derrière ça. Très sincèrement, je ne veux pas spoiler les auditeurs d'Europe 1 et leur raconter l'histoire. Mais je crois que vous verrez qu'il y a plus de nuances que ça dès demain.
Beaucoup de nuances et aussi beaucoup de programmes qui arrivent sur Netflix. Lesquels ? Réponse avec Damien Couvreur, il est le patron des séries françaises originales sur Netflix et il est avec nous dans Culture Média.
Europe 1, Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
9h, 11h. Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie de Damien Couvreur, il est le directeur des séries françaises originales de Netflix et à ce titre, il est une des personnes les plus courtisées du milieu de l'image en France, évidemment, parce que les gens essaient de vous vendre leurs projets. Donc Lupin reprend demain. Juste un mot, c'est la partie 2, c'est pas la saison 2. C'est quoi la différence ?
C'est que c'est la fin de la même histoire. En fait, cette saison, elle est découpée en deux parties de 5 épisodes. On a vécu le Covid, les arrêts de production, les retours sur le plateau. Donc, on avait envie de partager les 5 premiers épisodes dès qu'ils étaient prêts, la partie 1. Et puis là, vous allez découvrir demain, dès qu'ils sont prêts, puisqu'on était encore en train de travailler dessus il y a quelques semaines, la partie 2.
La suite, ce sera une saison 2 ou ça sera une partie 3 ?
Alors, on est vraiment dans les premières étapes de développement de la suite. On a repris l'organisation saison 1, c'est-à-dire l'histoire d'abord. Donc, c'est vraiment ça qui dictera la façon dont on diffusera la suite.
En mars dernier, vous avez annoncé la sortie de pas moins de 27 productions françaises qui seront disponibles pour les abonnés tout au long de l'année. Quelles autres sorties ? On ne va pas citer les 27, mais il y en a une que j'attends. C'est drôle, pourquoi ? Parce que c'est une série créée par Fanny Herrero. Qui est Fanny Herrero ? C'est la créatrice de 10%. Je sais déjà quelques éléments. Ça se passe dans le milieu du stand-up. Vous êtes à quel stade du développement, de l'écriture, du tournage ?
Je vais vous faire une réponse très précise, Philippe. On en est à la deuxième moitié du tournage. Donc on est en plein dedans.
D'accord, voilà. Donc ça a commencé le tournage ?
Ouais, le tournage a commencé, ouais.
Et ça sera pour quand ?
Alors ce sera pour l'année prochaine parce que d'abord Fanny est quelqu'un qui sait prendre le temps de créer ses histoires, voilà, et qui a pris le temps d'écrire, de développer cette première saison. Et puis vous savez, une fois qu'on a tourné, il faut monter, s'occuper du son, de l'image, de la musique, voilà, donc c'est quelque chose qui va prendre du temps.
Et ce sera avec des vrais humoristes connus, patentés, ou avec des débutants ? Je pense par exemple à la série Validé, où il y avait un rappeur qui jouait le rôle du rappeur. Qui vont être les
caractères ? C'est vraiment un mélange. Je pense que d'abord, c'est une série pas uniquement sur le stand-up, c'est une série dans le milieu du stand-up et c'est très important parce que je crois que Fanny en fait avait des choses à dire aussi sur sur la société française et que c'était un moyen de s'emparer de ce sujet-là. Donc il y aura vraiment à la fois des professionnels du stand-up et des gens qui débutent et puis l'histoire de la série et aussi l'histoire de gens qui ont réussi et de gens qui se mettent le pied à l'étrier. Donc ça, le casting sera le reflet de ça.
Y a qui dans le casting ? De noms qu'on connaît ?
Il y a alors le casting des rôles principaux, justement, et pas des acteurs que vous connaissez nécessairement. C'était aussi le parti pris de Fanny. Vous savez, chez Netflix, on aime à la fois avoir Omar Sy qui incarne Hassan Diop, et puis on aime justement donner l'occasion à de nouveaux visages d'éclore.
Et je vais vous citer, vous disiez vouloir, c'était dans Le Point le 30 mars, un article, miser davantage sur des histoires fortes, avec un casting identifié. Un casting identifié en français courant, ça veut dire des vedettes.
Exactement, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire, je crois que la force de Netflix, c'est de pouvoir faire les deux. On a des séries comme Mortel, comme Drôle, où finalement on révèle des talents, que ce soit derrière ou devant la caméra. Et puis on a des séries comme Family Business ou comme Lupin, avec des visages beaucoup plus connus. Voilà, je crois que c'est vraiment à la fois pour les membres de Netflix et puis pour les talents français l'opportunité de diversité.
Family Business avec Jonathan Cohen, même par Jonathan Cohen, si je me souviens bien.
Alors c'est une série qui est créée par Igor Gottesman, mais mais dont Jonathan et de tous les plans.
Voilà, exactement.
Avec Gérard Darmon, Julia Piaton, Liliane Rosberg, ouais. Enfin voilà, avec toute la famille.
Ouais, ils se lancent dans le business du shit parce que la boucherie, ça marche pas bien, si je me souviens bien. J'ai oublié, c'est la boucherie à la base ou pas ?
Exactement, ouais, c'est la boucherie qui devient une boucherie. Voilà. Voilà, et dont on est en train de terminer la saison 3.
Saison 3, il y a une saison 2 de Mortel, il y aura une saison 2 de Planqueur, il y a du cinéma aussi.
Bien sûr, il y a des films, je pense notamment à 8 rues de l'humanité, le film de Danny Boone qui lui aussi est en post-production. Et puis voilà, on a sorti beaucoup de films d'action cette année, c'est quelque chose qui va continuer. On vient de sortir Oxygène d'Alexandre Aja avec Mélanie Laurent il y a un mois. Voilà, on a beaucoup une offre maintenant qui est riche et à l'image des talents français.
Alors Danny Boone, j'en parle d'un mot de son prochain film, 8 rues de l'humanité, c'est un long métrage qui va raconter la vie des Parisiens pendant le confinement. À ma connaissance, c'est le premier film qui va traiter de ce sujet.
Et alors, vous êtes peut-être mieux renseigné que moi, je pense aussi, mais je peux pas être certain.
Voilà. Exactement. Mais il va se passer quoi ? Il y aura des gens chez eux qui vont rien faire ? Vont déprimer et boire ?
Il y aura, je crois, toute la comédie burlesque et poétique de Dany dans ce moment dont on a tous des souvenirs plus ou moins bons.
Et alors, moi je pense aux pulls de Noël qui reviennent comme la vérole. À partir de novembre-décembre, vous annoncez également une série de Noël.
Exactement, ouais, qui sera portée par Shirine Boutellac, que vous avez vu dans Le Pain, puisqu'elle joue dans Belkacem.
Elle est extraordinaire,
j'ai autant de plaisir à le dire à la radio que je lui ai dit en vrai, je suis son premier fan. C'est vraiment une actrice extraordinaire, fraîche, authentique, talentueuse, voilà. Et donc effectivement, elle sera au casting de Christmas Flow, qui est notre premier programme de Noël, qu'on a voulu concevoir comme un vrai programme de Noël, mais un vrai programme de Noël français. Voilà, ouais. Donc qui va nous raconter.
Un programme de Noël français avec un titre anglais, ça s'appelle
Christmas Flow, et c'est effectivement un titre anglais parce que c'est le titre d'une chanson qu'on verra dans le film.
Quelle est votre philosophie ? Faire des projets très locaux, très franco-français, ou alors directement viser le grand public mondial ?
Non, moi j'ai franchement une préoccupation en tête, c'est les membres de Netflix en France. On fait des histoires pour eux avant tout, et je pense vraiment que la qualité et l'opportunité de Netflix, c'est que plus ces histoires sont françaises, locales, authentiques, plus elles peuvent résonner dans le monde. Mais ça commence par la France.
C'est ce que disait Marcel Pagnol, et on a vu avec quel succès. Parfois la France vue par Netflix est un peu caricaturale. Non. Vous savez à quoi je pense ?
Ouais.
Émilie in Paris, Florilège.
Ouais. C'est incroyable, je bois à 11h.
C'est du Sancerre, le vin du petit déjeuner.
On est fermé ou il y a une fête nationale que je connais pas parce que je suis devant depuis 2h et je...
Qu'est-ce que vous faites là ?
Je suis là depuis 8h30.
Pourquoi ? On n'ouvre pas avant 10h30.
Je rêve d'aménager à Paris pour ainsi dire depuis toujours. En plus, les Français aiment les femmes mûres. Prenez leur président, il est jeune, il est sexy, il a épousé sa maîtresse d'école.
C'est bon, ça vous fait sourire, c'est parfois un peu caricatural, non ?
C'est parfois un peu caricatural, c'est de la comédie. Et puis je pense que, d'ailleurs, c'est caricatural autant pour la représentation de la France que des personnages américains. C'est une comédie qui nous raconte finalement les différences culturelles avec du recul et de l'humour. Mais moi ça me fait... D'abord, c'est une série portée par les équipes américaines, hein, c'est pas une série française.
Ouais.
Mais c'est vrai que ça me fait sourire, notamment cet extrait en VF avec ce petit accent presque poétique.
Il y aura une saison 2 ?
Il y a une saison 2 d'Emilie in Paris en préparation.
D'accord. Dernière, en tournage, ouais. Petite question. La loi française a évolué. Les géants du streaming vont être contraints à partir de juillet d'allouer 20 à 25% de leur chiffre d'affaires français à la production locale. Qu'est-ce que ça va changer pour vous ? Est-ce que vous allez tourner des séries et des films français par obligation ?
Ah, vous savez, je prends l'exemple de Lupin, c'est une série qu'on avait engagée avant même l'arrivée de cette nouvelle régulation. Donc nous, notre parti pris a été celui du dialogue, de s'asseoir avec les partenaires publics et professionnels. On est engagé en France, on a ouvert nos bureaux, on investit par choix. Donc c'est surtout cette philosophie qui va se poursuivre dans un cadre réglementaire qui s'élabore dans le dialogue.
Merci beaucoup Damien Couvreur. Je rappelle que vous êtes directeur de la création pour Netflix France, vous occupez des séries en gros. Et la partie 2 de Lupin, série phénomène avec Omar Sy, ça redémarre demain vendredi. Et toute une rafale de nouveautés qui arrive. Culture Média continue évidemment. Après le rappel des titres de 10h, Eva Rock pour le zapping du lendemain, Bertrand Chameroy pour son écran de veille spécial réouverture. Notre invitée, c'est la chanteuse Hélène Segarra. Et puis dans les indispensables, un voyage littéraire sur les chemins de Stevenson. A tout de suite.
Europe 1, Culture Média.
Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à regarder des séries. Et vous d'ailleurs. Vous êtes féru de séries, vous ne savez plus quoi regarder, vous voulez tout savoir sur l'envers du décor, vous adorez simplement qu'on vous raconte des histoires.
Découvrez Sériland, le podcast d'Europe 1 Studio présenté par Eva Rock.
Sériland, c'est le podcast qui vous conseille les meilleures séries du moment, Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.